Bonjour et bienvenue à cet épisode de l'aérospatiale. Christelle Tremblay au micro. Oups, j'ai avalé ma phrase. Je suis en studio avec Mathilde Harvey-Morin sur les ondes de CKRL 89.1 et on vous présente l'aérospatiale, l'hebdomadaire d'actualité artistique propulsé sur les ondes de CKRL, produite et diffusée par Mathilde Harvey-Morin et moi-même. On est en studio sur le territoire non cédé du Nyon-Wendsyo à Québec. Et puis, on est accompagné déjà en studio par Laurence Gravel, qui fera partie de l'émission de ce soir. Il y a plusieurs surprises prévues à l'émission, ce n'est pas une émission traditionnelle. Mathilde, est-ce que tu voudrais nous décrire, en fait, le résumé de l'émission?
Ben oui. Donc, on va commencer par recevoir un duo d'artistes performeurs, comme tu as dit tantôt, qui vont en fait nous partager une performance et une description commentaire de la performance en live dans le premier segment de l'émission. Comme tu nous as dit, Laurence Gravel, qui est une chroniqueuse hors pair avec nous, qu'on voit depuis souvent, va en fait décrire et faire une chronique dans le moment même en live sur Ezekiel Nadeau, qui nous fait une performance directe en face de chez nous, là, direct devant notre fenêtre. Donc si jamais vous passez en face de la vitrine de CKRL, c'est normal, c'est nous autres, puis c'est correct. Et sinon, on poursuit l'émission avec une entrevue avec Marie-Josée Gustave, qui est une artiste matérielle et commissaire de l'exposition De fil et de papier, qui va être vernie à Materia ce jeudi 11 avril. Et finalement, on termine l'émission avec une discussion après performance dans le style plus entrevue sportive après match. Donc, on a comme une chronique et l'entrevue dans la même journée. Ça va quand même pas pire. Donc, l'objectif de parler de l'art, performance, du ressenti du public et on assiste et qui assiste à une performance et encore bien d'autres choses.
Exact. Pour la sélection audio de ce soir, notre fidèle mélomane ici à CKRL nous présente Les Manières de Table. C'est le dernier album d'Annie-Claude Deschênes qui est sorti le 5 avril dernier. Inspiré des pionniers de la musique électronique, l'album est un ensemble dansant et mélodique, inquiétant et dystopique. L'album propose de mettre la table autrement en déconstruisant les codes sociaux de politesse et puise dans un large éventail d'influences, notamment le minimalisme de Steve Reich, les textures synthétiques de Kraftwerk et la diversité stylistique de Herbie Hancock. L'approche narrative non conventionnelle du cinéma expérimental est aussi une source d'interprétation. En tout cas, c'est une description qui met vraiment l'eau à la bouche. On écoute une première piste qui s'intitule Culinary Security et au retour de la pause, on sera en commentaire en direct avec la performeuse Laurence Gravel. Re-bienvenue, vous êtes à l'écoute de l'aérospatiale. Christelle Tremblay au micro avec Laurence Gravel, on l'a entendu?
Oh oui, parce que je suis très excitée de ce qui s'en vient.
On est tellement déstabilisés ici en studio. Les habitudes de Mathilde Harvey et de moi-même qui sommes habitués de suivre une routine quand même à l'aérospatiale. On reçoit des chroniqueurs, on fait des entrevues, on parle d'actualité artistique, mais c'est rare ou en tout cas inédit d'avoir de l'action qui se déroule live pendant l'émission et d'être en relation en même temps avec l'action, la performance, les artistes en action, le public qui est là pour voir, regarder et la description, la présence radiophonique. En tout cas, c'est tout un tas de confusion pour moi, de ressentis confus. Comment tu te portes, toi, Laurence?
Ça va très bien, merci. C'est spécial parce que j'ai fait plusieurs chroniques où justement j'allais voir des expositions, je lisais un livre, puis là je faisais un compte-rendu. Mais là, ce qui se passe en ce moment, c'est que je suis en train de faire un compte-rendu de quelque chose qui se passe en live.
Oui.
C'est ça. Fait que Ezekiel, quand t'es prêt à commencer, parce que là, je vois Ezekiel sur la rue.
On est sur la 3e avenue.
On est sur la 3e, au coin de la 3e puis la 4e. Si vous passez devant, si vous nous entendez, c'est vraiment à ce coin-là. Puis Ezekiel, qui est un artiste performeur, on a collaboré beaucoup ensemble. Ezekiel me regarde en ce moment. Bonjour Ezekiel. Il me fait un signe de la main. Fait que c'est ça. C'est un artiste qu'on a collaboré beaucoup ensemble. On se connaît beaucoup. Je connais ses gestes performatifs aussi. Mais là, semblerait-il que c'est une performance inédite qu'il a faite pour le trottoir ici, parce que c'est ça, ça se déroule sur le trottoir. Puis c'est assez particulier aussi parce que dans ses performances, Ezekiel a souvent tendance à s'habiller d'une certaine manière, ou en tout cas d'avoir une certaine conscience de la manière qu'il se présente. Puis là, c'est assez surprenant parce qu'il est habillé
en élagueur, mais en tout cas, c'est ce qui me dit quand on s'est rencontrés tantôt, juste avant la performance.
Que, tu vois, moi, j'aurais pas pensé élagueur. J'aurais pensé gars de chantier.
Ben là, moi, j'ai dit, Ézéchiel, t'étais-tu en train de faire des travaux sur le boulevard Charest ou qu'est-ce qui se passe? Fait que, parce que là, il y a son espèce de coton ouaté. Puis
sur lequel il a tagué avec une cacane en fluo orange,
oui,
un triangle.
Mais le orange revient souvent parce qu'il y a un tag, tu sais, de cacane orange sur son torse. Mais ce que j'ai remarqué tantôt, c'est que ses ongles sont oranges et il est maquillé aussi. Là, j'ai vu son fond de teint, mais il y a aussi du orange sur ses yeux, là, de l'ombre à paupières orangée.
Okay.
Fait, j'ai l'impression que ça fait partie aussi là, de la manière qui se présente. Puis, ce qui est particulier aussi, ou en fait, ce qui est plutôt ordinaire d'une performance, c'est qu'on est devant un public, en fait, mais là, on est comme, il y a un public à l'extérieur, à côté de la poubelle de recyclage, les poubelles...
Oui, de la
les poubelles de Limoilou, c'est
la
ça.
La ville de Québec.
C'est ça. Puis là, ben là, il vient de sortir du cadre, fait que je le vois plus.
Oui.
Sauf que, il y a, à l'instant, il faisait des signes au public qui était là, des...
Roche, papier, ciseaux.
Ben... C'est ça.
Moi, j'ai un angle différent du tien.
C'est ça.
J'ai vu que effectivement, il y avait le bouncing, le 2, 3, 1, 2, 3, roche, papier, ciseaux. Donc, j'ai reconnu le geste. Il a fait ça avec deux personnes du public.
Ouais, mais là, le public le voit plus que moi, je le vois parce qu'il est disparu de mon corps, mais j'ai l'impression qu'il essaie de communiquer avec le public, avec son roche, papier, ciseaux. Quoi qu'on communique pas grand-chose avec roche, papier, ciseaux, là, il n'y avait pas de concours à gagner. Fait que là, en ce moment, Ézéchiel est devant moi. Il est revenu dans le cadre, là, de manière assez précipitée. Son bras droit est en l'air, puis il fait comme un signe de deux. Puis là, il fait un signe avec sa main.
Il y a deux personnes du public qui répètent les gestes d'Ézéchiel.
C'est ça. Mais je crois... Ézéchiel m'a peut-être vendu quelques surprises, là, mais j'ai l'impression que c'est... Je le sais, il était tellement fébrile, là. Il a de la misère à s'en tenir, mais je pense qu'il me disait que c'était des gestes qui étaient inspirés du langage des signes. C'est ça. Là, j'ai pas tout retenu, parce que là, c'était beaucoup d'informations, puis j'ai l'impression qu'il était très excité, puis il m'en a dit beaucoup, mais c'est des signes qui font référence aux arbres ou à l'arrêt, ou... Puis là, le signe qu'il est en train de faire en ce moment, c'est qu'il met ses deux doigts et il fait le tour de son cou. Puis, de manière assez...
Tranchante, on dirait que c'est un geste de tranche.
Ouais. Tu sais, quand on fait le signe, genre, je vais t'avoir. Tu sais, ça fait comme ça, t'es mort. Mais là, étrangement, ça fait le tour de son cou. Mais moi, je trouvais que c'était assez sensuel parce qu'il y avait comme tout le mouvement de la tête aussi.
Mm-hmm.
C'est vraiment un très beau geste, puis j'ai l'impression qu'il fait pas partie du langage des signes, tellement qu'il était comme incarné. Fait que là, il claque des doigts, puis j'ai l'impression qu'il se prépare comme s'il allait... c'est ça, ce claquement-là. Comme s'il prévenait son public, « Déplacez-vous », parce que là, bon, le public s'est déplacé. Puis j'aimerais faire remarquer aussi, puis ça, c'est la première chose que j'ai remarqué quand il a commencé sa performance, c'est qu'il y a des gens qui sont en transit, hein, puis ils comprennent pas nécessairement que c'est un acte performatif ou...
Exact.
En tout cas, ben... C'est assez particulier. De toute façon, Ézéchiel, il matche avec les panneaux de la ville, fait qu'on le remarque presque pas. Mais
oui, parce qu'on a deux beaux cônes oranges.
Ah
deux,
oui, des cônes
panneaux,
oranges, des panneaux.
Signalétiques ici, là, sur...
Puis il a de l'air à travailler pour la ville. Fait que là, il fait un espèce de geste, un peu lasso, avec une corde qui était attachée à sa hanche, comme si... il y a quelqu'un qui vient le rejoindre.
Ah, il a attiré un membre
c'est,
du public.
Ben, il a attiré un membre du public, mais... Par le langage non-verbal de cette personne-là, il était prêt. Il était prêt à le recevoir. Fait que c'était comme... Fait que là, ils font un espèce de match de roche-papier-ciseaux. Ça a comme un peu interrompu ce qu'il était en train de faire là, avec la corde. J'ai l'impression que c'est un peu mystérieux. Mais là, ah! OK. Je pensais qu'elle allait se faire un câlin. Genre, ils se sont vraiment rapprochés. Fait que là, il entoure son ami. Ben, moi, je le sais que c'est son ami, là, personnellement. Mais il l'entoure avec cette chaîne-là. C'est comme une corde en tissu avec un harnais. OK.
Donc là, ils sont attachés ensemble, ils sont en contrepoids. Donc, le poids de chacun permet à l'autre de se laisser aller vers l'arrière.
Oui, ben exactement. C'est
comme un contrebalanc.
Un petit peu plus posé comme geste, parce que Ézéchiel était toujours en mouvement, mais là, ils sont attachés les deux par la taille, puis ils sont en espèce de contrepoids, comme quand on essaie de... Tu sais, comme un exercice de confiance avec quelqu'un, un
oui,
peu.
Oui, exact.
Je ressens ça. Puis là, il continue à jouer à roche-papier-ciseaux. Oh! OK, on a comme une espèce de contact avec les doigts. Mais c'est comme un roche-papier-ciseaux, mais plus adapté, mettons, à quelque chose de mystérieux, là. Je pense que ça se repose sur aucune règle, nécessairement, là.
Mais il y a quand même, on dirait, une connivence entre le performeur puis la personne du public.
Mm-hmm.
Ils ont l'air de comprendre les enjeux de leur jeu. on dirait qu'il pourrait se passer quelque chose de... comme une conséquence.
Oui, c'est ça. Mais malgré... malgré le fait que Ézéchiel est en train d'accomplir quelque chose d'artistique, j'ai l'impression que quand même du ludique à ça, il y a quand même une espèce de jeu qui sont en train de se produire parce que là, ils sont « Ah, OK. Ah, c'est très beau, ça. » Au lieu de se relâcher, de se laisser tomber, ben c'est comme propulsé vers l'avant puis il a fait comme une espèce de câlin improvisé.
Oui, très rapide. La personne du public l'a accueilli dans ses bras.
Oui. Puis là, il est en train de remettre sa chaîne sur ses pantalons, ben en tout cas sur son très gros harnais, là. Parce que on dirait que le costume ici a vraiment beaucoup d'impact là, sur la manière qu'il va performer, parce que tous ses outils, tous ses dispositifs sont un peu à travers son corps. Là. Fait que là, Ézéchiel refait le geste qu'il fait au début de la performance, ou le geste qui est très récurrent, qui est de lever sa main, sauf que là, au lieu que ce soit sa main droite, c'est sa main gauche.
Mais il salue un petit peu comme la reine d'Angleterre.
Il reste, là, j'aimerais très dire fixe. Qu'il reste à peu près 2 minutes.
Ouais.
Fait que là, je sais pas si Ézéchiel, tu veux comme commencer à terminer, mais je t'invite à continuer si tu le désires pendant la pause musicale. Puis là, le public au début, il était tout autour de lui, puis le public est comme parti. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus en dialogue avec le public qu'il est avec moi ou les gens qui sont autour de lui.
Mais on le voit même en fait énoncer des paroles.
Oui, c'est ça. Ce qui est étrange aussi, c'est que Ézéchiel nous entend, mais nous, on l'entend pas. Mmh. Fait que comme tout un jeu sur le non-dit, sur le dialogue de sourd un peu, ou peut-être même le secret, ou je sais pas. Fait que, parce que si on était dehors, on n'aurait pas du tout le même genre de performance, ça, c'est certain.
Ben, surtout qu'on serait pas en train de parler par-dessus sa performance.
Non, je pense que j'ai jamais parlé autant sur une performance que ça. Ça serait très indiscret et mal poli, mais là...
Là, on se le permet, parce que c'est le dispositif que vous nous avez présenté ce soir.
Oui, cette exactement.
Espèce d'accumulation de couches narratives, où on se prend au jeu de regarder Ézéchiel, mais de produire un discours tout de suite, dans l'immédiateté, par-dessus sa performance.
Mais en tout cas, je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce qu'il a dit après tous ces gestes-là. Certains gestes qu'on a pu décrypter et d'autres un petit peu plus mystérieux. Peut-être qu'on ne devait pas savoir. En tout cas, c'est ce que je me pose. Ça teinte cette performance-là ou est-ce que c'est une espèce de relation qu'il va avoir eu avec son public là, immédiat sur la rue?
Bien, on se laisse sur cette belle interrogation, Laurence. Merci pour la description animée, le
commentaire. Ça fait plaisir. Je vais aller boire un verre d'eau, je pense.
On se retrouve en troisième segment d'émission où on va pouvoir revenir, en fait, sur l'action de commentaire et puis l'action performative que vous avez fait, réalisée pour nous,
oui.
Vécue avec nous.
Je suis autant excitée par la suite.
Rebienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale. Christelle Tremblay au micro, en studio avec Mathilde Harvey-Morin. Et on est rejointe en onde pour une courte entrevue avec Marie-Josée Gustave, qui est une artiste matérielle et aussi la commissaire de l'expo de fil et de papier qui va être vernie au Centre Materia très prochainement. Bonsoir Marie-Josée. Ah, je pense qu'on a perdu Marie-Josée Gustave. Alors... ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de l'expo de fil et de papier. C'est une expo qui va être vernie au Centre Materia. Elle présente le travail de 8 artistes de la matière qui ont tous des savoir-faire et des pratiques contemporaines en métier d'art qui façonnent et transforment la matière papier. L'exposition explore le langage de la matière papier en mettant en lumière la force du geste artisanal qui se trouve derrière chaque œuvre et la puissance créative du savoir-faire manuel. Donc vraiment, on sent ici que Marie-Josée a un amour pour le travail artisanal, les savoir-faire et des artistes qui se révèlent dans ces savoir-faire-là. Donc, elle rejoint UT Wolf, Julie Bénédicte Lambert et Anne-Yvonne Jouan. Ce sont en fait tous des artistes qui travaillent des formes et des compositions dans des œuvres d'expression qui sont souvent abstraites, mais qui témoignent toutes d'une passion profonde pour les gestes méticuleux que nécessitent les techniques de fil et de transformation du papier. Marie-Josée Gustave va nous dire, en fait, dans son travail commissarial, que le corpus présenté rencontre à la fois de gestes de grande précision et d'une transformation de la matière en une nouvelle matière et de l'utilisation du fil qui permettent la réalisation d'œuvres de grande finesse. En brodant, tissant, tressant, nouant le papier, les artistes assument leur style unique et perpétuent un geste artisanal pointu et minutieux, faisant de ce matériau un mode d'expression artistique particulier qui laisse la place aux sculptures flexibles et aux abstractions organiques et autres évocations. Alors, ce qu'on va voir au Centre Materia, c'est une expo collective, donc plusieurs pièces qui sont affichées, installées dans l'espace et qui cohabitent. L'exposition va être vernie, comme je le disais, le 11 avril. Elle va être en montre jusqu'au 12 mai. Elle rejoint plusieurs artistes. Ceux que j'ai nommés, ce sont les artistes Ute Wolf, Julie-Bénédicte Lambert et Marie-Josée Gustave qui vont faire une micro-conférence dès 16h le jeudi 11 avril. Et ensuite, ce sera suivi du vernissage. L'expo regroupe aussi les œuvres de Nikitul Nikumrat, Mylène Boisvert, Anne Bocher, Sabrina Sachiko. Donc, il y a un atelier de médiation qui est aussi accessible à l'ensemble des artistes qui va être offert par Sabine Lamy de La Chapelle le samedi 20 avril 2024 de 9h à midi ou de 13h à 16h. C'est un atelier de création de broches à fleurs. Donc, sur cette brève description, malheureusement, de l'exposition de fil et de papier, on va prendre une courte pause musicale et au retour de la pause, on pourra faire la suite de l'émission. Re-bienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale. Christelle Tremblay au micro, en studio, avec Ézéchiel Nadeau, Laurence Gravel et surtout Mathilde Harvey-Morin à la console. On a survécu une entrevue malheureusement ratée avec Marie-Josée Gustave, mais je pense que l'exposition de fil et de papier était en montre jusqu'au 12 mai, va nous donner le temps peut-être de reprendre cette entrevue la semaine prochaine et de parler même davantage avec les artistes qui sont exposés dans cette expo collective. Alors, ce n'est que partie remise. Parlant de partie remise et de métaphore sportive, j'aimerais que vous m'expliquiez, s'il vous plaît, les chers amis chroniqueurs et artistes, d'où vient cette idée de performer live et de commenter sportivement live une performance comme s'il s'agissait d'une partie de baseball, d'une partie de quilles, d'une partie de curling ou toutes ces activités extrêmement enivrantes qui sont commentées sur les ondes?
J'aimerais commencer par Ézéchiel. Quelle performance!
Oh, merci.
Ah oui!
Merci, Juju.
Parce qu'on t'a pas applaudi, hein? Fait que...
Ouais, quand même.
Mais t'avais un public avec toi dehors.
Oui, oui, on était... Oui, tous mes amis sont d'ailleurs dans le lobby à écouter l'émission maintenant au show. Oh.
On n'a pas vraiment eu le temps, là. Je suis sortie dehors, Ézéchiel, pour petite jasette, là, pour venir te féliciter de ta performance à l'extérieur. Mais c'est ça, on n'a pas eu le temps de débriefer. Fait que tout ce qui se passe, c'est comme un peu en direct. Mm-hmm. Fait que là, où est-ce que ça vient, cette idée-là de faire une performance sportive? Mais c'est comme... Là, je vais parler pour moi, puis après ça, tu pourras répondre, là, parce qu'on n'a peut-être même pas la même interprétation du moment qu'on a vécu ensemble. Mais c'est ça, Ézéchiel puis moi, ça fait un petit moment qu'on est amis, puis on fait des... On a fait plusieurs performances ensemble ou dans des workshops, des cours de performance, puis à force de parler, tu sais, on divague souvent, là, juste... on parle pas juste de performance, on parle de ce qu'il y a autour, puis on a fait plusieurs performances qui étaient sportives. Ça arrive des fois qu'on est raqué un peu, même si...
Oui.
C'est ça. Fait que on avait fait un workshop ensemble, mais Christelle aussi, t'étais là, puis je pense que ça vient de ça aussi, d'être... On avait appris à marcher, tu t'en souviens?
Oui, ben oui, c'était le workshop que tu fais référence, c'est le Performance Art Studies, le numéro 119, là, qui a eu lieu au lieu. En 2022?
Je pense que
ça fait
à
deux
l'automne
ans,
2022.
Là, ça fait deux ans que cette idée-là mijote. Là. Puis c'est ça, c'est effectivement, on avait divagué sur l'effort déployé pour faire une perf parfois. Puis moi, personnellement, c'est un vocabulaire que j'aime bien, l'effort physique. Étant une personne qui n'est pas originellement très sportive, je trouvais que faire de l'action sportive, justement, dans un contexte artistique ou de performance, il y avait quelque chose de très satisfaisant là-dedans. J'avais le sentiment de faire un 2-pour-1, de mettre du pain sur la table et de me cultiver un six-pack.
Mm-hmm. Ouais. C'est beau, ça?
Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on mais... avait. Vas-y.
Non, vas-y. On veut pas s'interrompre, okay. Là, mais.
Mais oui, c'est ça. Fait que on avait dit à un moment donné, ça serait tellement drôle de faire ça à la radio comme l'idée de quelqu'un qui commente, parce que le fait même de commenter est extrêmement performatif, surtout dans le cas des commentaires sportifs. Là, les gens sont comme. Sont tellement dedans, ça n'est presque. Je suis pas un fan de hockey, mais si je les écoute, j'écoutais juste le commentateur, je pourrais devenir fan, je pense.
Ben, Christelle Lofa, tu parlais de... Là, je vais pas le nommer, là, parce que je sais pas son prénom, là.
Goldberg.
Ah, c'est ça. Qui commente le patinage artistique, là, c'est quasiment aussi beau que le patinage artistique, mm-hmm. Fait que... Mm-hmm. Mais je pense que... là, tu dis, c'est drôle, je suis pas une personne sportive, mais tu fais de la danse, mm-hmm. tu fais du cirque, là, tu t'en vas faire de l'escalade.
Mm-hmm. Oui, c'est vrai.
C'est ça. Mais... Puis t'es habillée de manière quand même... ben, c'est pas de l'escalade, là, mais je connais tellement pas moi-même le sport que, je sais pas, il y a comme une référence, justement, à l'escalade.
Ouais. Ouais, ben oui, là, bon, c'est ça, là, pour les auditeurs, auditrices, là. J'ai porte sur moi en ce moment un kit d'élagueur composé de pantalons de travail avec un harnais rutilant, un peu vieux, qui sent le métal, qui était à mon ami, qui a porté pendant qu'il était élagueur lui-même. Puis, c'est ça, ouais. Dans ce cas-ci, c'est plus les codes du travail. Mm-hmm. Après ça, il y a mes petites entourloupettes de sportifs que j'aime ajouter, là. Puis, pour moi, c'est comme le sportif, puis le travail, il y a comme quelque chose d'intéressant là-dedans. Je trouve que comme artiste, j'ai un rapport un peu, disons, très particulier
comme
avec.
Comme un rapport au masculin, peut-être, ouais. De porter les codes, parce que mm-hmm. Sans nécessairement que tu t'en parles tant que ça, mais dans plusieurs performances, tu portais des... Il y avait un pantalon, puis il y avait des lunettes de soleil qui faisaient référence à une espèce de personne sportive mm-hmm. qui performe la sportivité, là. Je ne mm-hmm. sais même pas si ça se dit, là, mais
ouais.
Fait que ça revient souvent aussi, mm-hmm. là. Puis, j'avais une autre question, mais j'ai oublié.
Ouais, ben oui, c'est ça. Les vêtements, pour moi, de plus en plus, là, me permettent de travailler sur un type d'état que je recherche. Fait que de choisir des vêtements en conséquence fait partie du processus de création des perfs. Puis justement, ça a été un peu justement une divagation au début de porter des vêtements confortables lors de workshops, tu sais. Puis finalement, je m'habillais en sport, tu sais. Puis je me disais, on dirait que j'ai comme le goût d'aller jogger finalement, ou j'ai le goût d'aller... lever des affaires lourdes, là.
Mm-hmm. Parce que j'aimerais rappeler aussi que, tu sais, c'est des actions, c'est de leur action, c'est souvent c'est conceptuel ou c'est symbolique, mm-hmm. ou en tout cas, il y a toutes sortes de types d'actions qui peuvent accompagner nos pensées, mais des fois, ça peut être des actions de longue durée ou ça peut être des gestes répétitifs ou des choses mm-hmm. qu'on n'est pas habitué de faire. Que, exemple, tantôt, t'avais ta main en l'air, mais t'aurais pu la garder pendant une heure si c'était en corrélation avec l'idée que t'aurais mm-hmm. voulu diffuser. Mais on pense jamais à ça, mais c'est vraiment prenant sur le corps, tu sais. Fait que mm-hmm. de là, peut-être même, tu sais, la référence au sport, comme on disait, là.
Oui.
Puis, ton autre question, là, qui est pas vraiment rapport au sport, mais plus au rapport au costume que tu portes, c'est assez particulier parce que là, on est dans Limoilou, puis là, on a remarqué que tu ressemblais vraiment au panneau. Les panneaux oranges, je ne sais pas mm-hmm. si tu as entendu tout à l'heure, mais il mm-hmm. y avait, dans ce costume-là d'élagueur, tu avais une préoccupation pour le territoire de Limoilou, si mm-hmm. je ne me trompe pas.
Mm-hmm. Ben, c'est sûr que je suis sensible à ça. C'est la 3e avenue, là, je la traverse presque quotidiennement. Là. Donc, c'est sûr qu'effectivement, la pléthore de cônes oranges devant, ça m'a beaucoup inspiré. Puis, l'espèce de vocabulaire esthétique de la sécurité,
la signalétique à gauche, à droite, ben oui. Faut tourner, faut
exact,
arrêter.
Oui, puis cette portion-là de la signalétique dans mon travail, je l'aime bien aussi parce que je tends à, disons, infiltrer des codes pour un peu les troubler ou, disons, les rendre un peu monstrueux, tu sais. Fait que dans le code de l'élagueur, tu sais, autant que je fais un effort pour avoir l'air le plus possible, tu sais, de cette espèce de stéréotype masculin du travail, tu sais. Autant comme que je me suis mis comme du beau petit vernis orange sur les mains et sur les pieds, je tiens à dire, même si j'ai des grosses bottes oranges. Puis, comme un peu comme presque une approche presque drague, là, mais comme, disons, plus sur le de manière souterraine. Là, fait que, ouais, fait que c'est ça, effectivement, les cônes oranges, là, je me disais que cônes oranges, ça serait un bon nom de drague, quand même.
Puis, t'as comme un symbole là, sur le
oui.
torse qu'on a remarqué qui est orange comme tes ongles, comme ton maquillage.
Mm-hmm.
Moi, ça m'a fait penser au logo du Canac.
Oui, mais ça, c'est une anecdote quand même intéressante parce que, justement, ma performance, en fait, débutait d'un matériel qui est plus de l'ordre du deuil. En fait, là, ça traite de deux arbres qui ont été abattus là, sur la 13e rue, entre la 3e avenue et la 4e, si je ne me trompe pas. Deux grands peupliers deltoïdes qui avaient à peu près comme 115 ans. qui avait été, du moins d'après les sources publiques, qui ont été abattus par, parce qu'il portait problème, là, et peut-être trop vieux. Puis le triangle orange à la canette, à l'aérosol, en fait, là, c'est un signe pour dire aux élagueurs que l'arbre est prêt à être abattu, en fait. Cette image-là m'avait beaucoup touché. Parce que, bref, pour faire une histoire courte, là, il y a quand même un petit post Facebook sur ces arbres-là qui ont été... qui étaient comme, en fait, présentés comme des personnes qui des arbres qui attendent la mort, tu sais. Puis, les gens, en fait, étaient super touchés. Ils venaient comme voir l'arbre une dernière fois. Ils ont pris des photos, ils publiaient ces photos-là. Il y avait quelque chose de comme troublant dans combien de gens étaient en deuil de ces arbres-là. Fait que moi, c'est ça, la métaphore du triangle orange, qui est, en effet, le logo de Kanak, qui est une marque de mort, en fait, là, qui est une marque de en attente de d'être abattu. Donc, cette métaphore-là, ce symbole-là m'intéressait beaucoup. Puis, je voulais rentrer là-dedans. Puis, parler d'arbres, parler de ce qui est coupé, mais aussi parler d'un vocabulaire, disons, gestuel, de la coupe aussi. Là. Fait que d'où les parties de roche-papier-ciseaux, là.
Ouais, ben j'aimerais rectifier quelque chose que j'ai peut-être dit tout à l'heure, que quelqu'un m'a fait remarquer quand je suis sortie. On dit pas langage des signes, on dit langue des signes, parce oui. que langage c'est un peu réducteur. Fait que si j'ai dit langage, c'est ouais. peut-être juste mauvais pli. Mais quand même, c'est vraiment intéressant qu'on m'ait fait remarquer ça. Puis, outre cette réflexion, avec ta main droite ou ta main gauche, t'essayais d'exprimer quelque chose qui avait un rapport aux arbres. Mm-hmm. Ça fait pas. Je crois que ça faisait pas nécessairement partie. De la langue des signes, mais tu te l'es réapproprié?
Bien, il y a des éléments, en fait, c'est intéressant parce que dans la pré-performance, en fait, là, moi, j'ai comme commencé un peu d'avance, finalement. J'ai enseigné quelques gestes que j'ai... Bien, quelques mots que j'ai appris en langue des signes, justement. Des mots qui sont... qui ont une, disons, une parenté... Bien, en fait, des mots qui parlent d'arbres, qui parlent surtout de découpe et d'abattage, mais aussi, formellement, en fait, là, les deux doigts, l'index et le majeur... en forme de V, veulent dire beaucoup de choses, en fait, là, qui peuvent être réutilisées dans différents mots, en fait, notamment, là, autant la forme de ciseau sert pour dire couper, mais aussi pour dire frère, en fait, pour nommer plein de choses en même temps. Fait que je trouvais que cette espèce de polysémie, presque d'un geste simple, ou presque, on dirait que c'était comme si j'avais l'intention de faire de la poésie en langue des signes, mais je maîtrise pas la langue du tout, tu sais. Mm-hmm. Donc, c'est ça, une espèce de rapport très, très embryonnaire, là, donc...
Mais c'est sûr qu'il y a toute une portion aussi sur la communication, parce que c'est assez particulier ce qui se passe en studio, ou juste dans l'action de faire une performance de ce genre-là, là, dans le sens où moi, je suis à l'intérieur, je te vois, toi, t'es dehors sur le trottoir, les gens passent, puis tout mm-hmm. ça. Puis là, tout d'un coup, la perception... des dialogues prend mm-hmm. un autre sens. Mm-hmm. C'est ça, c'est vraiment spécial. Fait que la langue des signes est un commentaire sur ce dialogue-là, un peu.
Oui, ben moi, effectivement, quand on a concrétisé cette idée-là de performer à deux dans le contexte de la radio, je voulais comme mettre un peu du sable dans l'engrenage, là, où est-ce qu'il y aurait des éléments qui seraient pas clairs, notamment si je parle dehors, ben vous m'entendez pas qu'est-ce que je dis, mais si je parle d'une langue qui est gestuelle, ben à ce moment-là, peut-être qu'il y a comme un peu de compréhension, mais si on ne maîtrise pas la langue, il y a comme encore un peu ce flou-là. Puis j'aimais ça, l'espèce de secret, justement, entre les gens qui sont dehors puis qui ont pris la peine de venir, où est-ce qu'ils repartent avec quelque chose, en fait, finalement, puis ils ont eu accès à quelque chose qui a été donné, en fait, là. Fait que c'est ça, oui. Donc tout ce qui est d'apparence, de l'ordre du secret, ça m'attire beaucoup. J'aime ça générer là, un peu cette ambiance-là, en fait. Là, dans l'espace public aussi, c'est intéressant, parce que ça crée une bulle. Les gens qui passent ne sont pas nécessairement interpellés directement. Ils vont comme traverser cette bulle-là. Puis après ça, il y a les gens qui sont arrivés là, au début de la performance qui sont en plein dans cette bulle-là. Puis, mm-hmm.
J'avoue que c'est des enjeux auxquels le performeur de toute discipline peut-être est confronté. Là. Où est-ce qu'on fait la performance? C'est assez... définir un peu les codes, tu sais, dans le sens où si on le fait dans une galerie, c'est des gens qui sont habitués de voir, qui peut-être comme un commentateur sportif qui regarde une game de hockey, capable de dire « Ah, ça, c'est un bel échappé! » Tu vois, je comprends rien au hockey, là, mais genre, on comprend les codes, mais quand on le fait directement dans l'espace public, par exemple, dans la rue, ben là, c'est sûr qu'on est confronté à des regards de personnes qui sont pas habituées. Ben, peut-être parce que là, tu es habillé en élagueur, peut-être qu'il dit, peut-être qu'il prend deux, trois mesures, tu sais.
Mm-hmm.
Mais comment toi, tu l'as perçu de faire ça à l'extérieur? Si je le sais que c'est pas ta première, parce que mm-hmm. peut-être plusieurs workshops ensemble où ça se passait à l'extérieur, mm-hmm. ou toutes sortes d'environnements qui sont pas propices à faire des performances, ou,
mm-hmm.
ou qui le sont peut-être encore plus qu'être en galerie, là. Mais comment toi, tu l'as vécu de faire ça dans cet endroit-là qui est le trottoir mm-hmm. de Limoilou?
Mm-hmm. C'est un lieu très passant. Puis, t'es très communicatif comme personne. J'ai envie d'entrer de parler aux gens, tu sais. Mais là, j'essaie de maintenir mon état performatif, puis de, c'est de aller à fond dans ce que je veux proposer. Fait que, vu qu'il y a beaucoup de passages, ça demande un peu plus de concentration. Puis ça demande aussi des stratégies de, pour moi, du moins, c'est important, comme de créer un espace dans lequel la performance apparaît. Puis ça peut être par plusieurs stratégies. Puis je pense que le secret en est une, ou comme la communication, ou comme une espèce de code en fait, là. Donc, de créer cet espace-là, puis essayer de le maintenir le long de la performance, soit par des déplacements, soit par des regards, soit par une qualité de présence quelconque. C'est quand même un pas pire enjeu pour le dehors. C'est sûr qu'aussi, je n'ai pas tendance à faire des performances qui sont extrêmement provocantes. Donc, moi, je n'ai pas ce stress-là de « est-ce que quelque chose va se passer de plus avec l'autorité, disons. » Mais c'est ça.
Oui, parce qu'on se l'est demandé, justement, est-ce que faire des actions dehors qui sortent un peu du commun,
ouais,
peuvent attirer des regards un peu curieux, parfois malveillants, là, sur...
Ouais.
Mais je pense pas que c'était le cas, là, parce que, en changeant un peu de sujet, en t'amenant vers une question que je me posais, je t'ai senti peut-être dérangée par le public qui passait, quoique je te voyais souvent revenir vers les actions que tu voulais poser. Mais quand tu es rentré en contact avec l'autre personne par la corde, j'ai senti qu'il y avait une espèce de complicité qui sortait. Je pense que tu essaies de te ramener, mais c'était tellement comme...
J'avais beaucoup de plaisir.
C'est ça, je l'ai senti, ce plaisir-là.
Oui, oui, j'ai été vraiment... en fait, moi, ça existait dans ma tête en dessin, puis c'est pas le même plaisir, en fait, mais le plaisir de l'expérience, j'avais juste envie de jouer, là. Fait que j'essayais comme de garder un certain sérieux, peut-être. Puis aussi, ben, c'est ça, c'était avec mon ami, puis voilà, beaucoup de plaisir, tu sais. Donc, c'est ça, c'est comme toujours essayer de garder l'espèce de petit fil, tu sais. Mais cette lutte-là est pas inintéressante, tu sais. L'espèce de rire ou l'espèce de ah, oh, finalement, pique une jasette, finalement, ah, oh, ben là, je vais te guider, tu sais, ça va.
Ouais, ben, faut quand même se laisser porter par ce qu'on vit, là, tu sais. Puis je l'ai senti. Puis est-ce que ce geste-là, parce que il y a le. L'action avec tes doigts qui symbolisait le frère ou les deux arbres. Là, c'est peut-être moi qui extrapole, puis que genre, j'ai vu plein de symboles qui n'étaient même pas là, là, mais j'étais assez convaincue que ça avait peut-être rapport. Là, mais tu sais, tes deux doigts, les deux arbres, puis c'est ton ami. Il y a comme une relation aussi de fraternité avec le public ou avec les éléments d'extérieur. Comment t'as perçu... Ben, je sais pas si c'est une question qui se pose, là, mais est-ce que je vois quelque chose qui n'existe pas? Ou...
Ben... C'est sûr que c'est plus comme un effet de sérendipité, dans le sens que moi, je voulais travailler avec le geste de couper. Puis justement, tu sais, le geste super simple du ciseau, tu sais, ça reste à deux doigts. Après ça, ça l'ajoute à la lecture, effectivement, là, l'espèce de deux doigts, deux personnes, deux toutes, en fait. Là. J'aime ça. Un peu comme coordonner, un peu comme j'ai coordonné mes ongles avec mes bottes. Puis, je dirais peut-être plus comme... Parce que oui, effectivement, j'ai utilisé le mot « frère », mais plus en termes de parenté formelle, dans le sens que c'est un peu les mêmes gestes. Fait que je parlerais plus comme d'adelferie, peut-être, ou disons de relation, c'est ça, d'intimité, ou de... C'est ça, c'était une belle opportunité d'essayer quelque chose aussi avec une nouvelle personne. Donc... ouais, je dirais ça, mais le rapport à être en relation dans mon travail est important, justement, puisque c'est ça, moi, c'est quelque chose que j'apprécie moins, justement, d'être juste toujours seul dans mon coin à faire des affaires. J'ai besoin comme de l'autre, tu sais. J'ai besoin d'avoir un sentiment qu'il y a comme cette part de... cette responsabilité partagée, tu sais.
Je trouve ça absolument nécessaire, puis de considérer la performance comme un dialogue, comme un geste de bienveillance. Tu n'as pas dit ça, là, je l'ai comme assumé, mais je trouve que c'est à la fois un bon filon artistique, quelque chose à explorer, quelque chose d'humain aussi, à percevoir dans ses propres performances. Puis comme l'entrevue tire à sa fin, mais j'aimerais ça te remercier d'avoir fait ce geste-là pour moi. Je pense que c'est important que je te le dise.
Ben oui, on s'est fait un cadeau, en fait, aussi, là.
Ben oui. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire ça aussi. Ça fait 200. Je suis vraiment contente.
Oui, fait que c'était déjà comme le cadeau dans le cadeau dans le cadeau, là.
Parce que se faire des performances à nous, c'est des choses qu'on se fait de temps en temps, justement. Mm-hmm. Pas besoin d'avoir un public, pas besoin d'être en galerie, pas besoin d'avoir une expo. On peut quand même explorer les gestes formels, explorer, faire des expérimentations artistiques, même s'il n'y a pas de contexte extraordinaire. C'est important. Ben, je pense que c'est important pour moi. Je pense que ça l'est aussi pour toi de continuer à réfléchir la performance en dehors des cadres institutionnels ou académiques auxquels on vient. Là. Fait que je te remercie encore une fois.
Moi, j'aimerais participer à la chaîne de remerciements pour remercier Laurence. Parce que je trouve que dans les questions que tu as adressées à Ézéchiel, tu nous as ouvert en fait ton regard sur la performance puis ta capacité de lire en direct les symboles puis d'avoir l'audace de les interpréter, de partager tes interprétations sous forme de questions pour valider avec l'artiste est-ce que c'était ça, est-ce que ça résonne avec tes intentions. Et puis cette incertitude-là, mais la confiance que tu as en ton ressenti, je pense que c'est le meilleur exemple qu'on peut donner à un public qui ne sait pas comment se comporter face à une performance. C'est très généreux de ta part.
Merci beaucoup.
Merci à vous deux.
Merci.
C'était une belle expérience. Yeah. Et puis, on part en pause musicale. Au retour de la pause musicale, on fait un court agenda de la semaine. Rebienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale. Christelle Tremblay au micro en studio avec Mathilde Hervé-Morin à CKRL 89.1 dans Limoilou. C'est le moment de la semaine où on fait l'agenda des activités culturelles à venir cette semaine, des choses à ne pas manquer. Si vous êtes un amateur, une fan, un aficionado, une aficionada d'art visuel à Québec, il y a d'abord un vernissage à la galerie Alexandre Motulski-Falardeau qui a le plaisir de nous inviter à une nouvelle expo collective du 10 avril au 19 mai prochain. Le vernissage a lieu ce mercredi 10 avril de 17h à 21h. C'est ouvert au public et les artistes invités sont José Landry-Sirois, René Derouin, Eruoma Awashish, Paul Béliveau, Tania Girard-Savoie, André-Philippe Côté, Louis Boudreau, Nathalie Thibault. Donc c'est quand même une grosse expo, ça vaut la peine de faire le détour. Sinon, si vous pouvez pas passer, ben, les fenêtres sont magnifiques, vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Jetez un coup d'œil. C'est sur la rue Saint-Jean. Il y a aussi dans le cadre de Labo Expo, une activité qui est présentée jeudi le 11 avril à 17h qui s'appelle J'ai le doux large. Ce n'est pas le dos large, il s'agit d'un jeu de mots. J'ai le dos large avec Flavie Dufour, qui est une artiste qui nous présente avec la participation de Catherine Deschênes-Quirion, Fanny Dubé, Geneviève Fauché, Hugues Mingui, Judith Philippe, Marie-Joëlle Légaré, Muriel Leclerc, Natacha Morneau et Roger Hamel. Il s'agit en fait d'un vernissage où sont présentés au public les portraits sonores réalisés durant les ateliers, ainsi que d'autres pièces récoltées durant la dernière année qui se retrouveront dans une installation poétique. C'est une invitation à embrasser le doux et à se bercer d'humanité. Le Labo Expo, c'est vraiment une espèce d'atelier de longue durée, un processus de 4 rencontres qui est un espace d'expression inspiré du dadaïsme où, à l'aide du souffle, de sifflement et de babillage, les participants ont créé des paysages sonores pour évoquer leur météo intérieure. Donc, quand même très intéressant comme démarche à aller découvrir à la Galerie Sherpa sur Charest. Les 12 et 13 avril, il y a au lieu Centre en art actuel, les soirées estudiantines. C'est une tradition, je pense que c'est la deuxième édition cette année, donc ça va se poursuivre dans le temps. C'est sur deux soirs, donc le 12 et 13 avril. Tous les finissants du baccalauréat en art visuel de l'Université Laval ont été sollicités pour co-présenter avec des artistes étudiants et étudiantes du bac de Trois-Rivières, ils vont promouvoir l'art-performance en s'efforçant de favoriser le développement de cette discipline. Le lieu a fait appel à la collaboration spontanée de Biznik Xaliri, un artiste et enseignant en performance au bac en art visuel de l'UQTR, pour nous proposer trois artistes de cette université. Donc, ce sont en tout 12 artistes passionnés qui provoqueront des rencontres improbables entre différents univers et qui créeront des moments de partage et de vulnérabilité comme seules leurs pratiques respectives peuvent générer. Et elles offriront une fenêtre tantôt intime, tantôt flamboyante sur ce qui anime nos artistes performeurs, performeureuses de demain, ainsi que sous l'égide de la co-présentation de la promotion de la relève et de la notion de réseau et de la prise de risque, tant sur le plan de la sélection d'artistes que de leur performance en tant que telle, le lieu nous convie à cette seconde édition des soirées étudiantines. Donc, les artistes étudiants et étudiantes qui sont programmés le 12 avril sont 51 Mont, Camille Duchesne, Marguerite Arbour, Chloé Péloquin et Coralie Roy, un duo de l'UQTR, et Charlotte Larouche. Ensuite, le 13 avril, il s'agit de Oz Ivers, de Lé, de Morgane Alanouellette, de David Lacourcière qui nous provient de l'UQTR, et ensuite de Léane Lefebvre et de Max Saint-Pierre. Deux grosses soirées. Aussi, je voulais vous parler de la classe de maître qui aura lieu samedi le 13 avril de 9h à 18h dans les ateliers de production de Vue. C'est une classe de maître qui s'adresse à 8 à 10 personnes seulement. Il reste deux places. C'est au coût de 175$. C'est assez dispendieux, mais ça inclut des impressions. La classe de maître porte sur l'architecture du livre. Ça suit une conférence qui sera offerte le 12 avril, mais qui est malheureusement complète. La classe de maître permettra, quant à elle, aux participants d'expérimenter à partir d'un corpus existant en différentes étapes tous les aspects liés au design de livres, stratégie de séquençage, de mise en page, de pairage, d'intégration typographique, ainsi que le lien conceptuel de la forme et du contenu dans un contexte photographique. Il s'agira de moments de mise en commun et de discussion, mais plus principalement d'un accompagnement personnalisé avec chaque artiste pour la conceptualisation graphique du projet. Vincent Drouin, responsable de la micro-édition à Vue, accompagnera également les participants tout au long de la journée, le but étant de terminer la classe de maître avec une maquette entre les mains. Il demande aux participants de nous envoyer leur corpus d'images en amont afin que Vue puisse imprimer les tirages de lecture avec lesquels travailler. La classe de maître sera complétée par un micro-événement à venir de restitution publique de l'atelier avec une discussion ainsi qu'une présentation des maquettes et le tout sera organisé à la galerie Critérium les 20 et 21 avril. La classe de maître sera offerte par Maxime Réau. Enfin, dimanche 14 avril, exposition et vernissage d'Édouard Jean peintre. Une expo de peinture et de sculpture. Il s'agit d'une représentation sculpturale et picturale de l'homme dans ses vulnérabilités les plus sincères. L'art d'Édouard est subversif, sa sombre envie d'honnêteté et ses pulsions intimes imagent l'homme dans ses revers et ses défauts les plus profonds. Inspirations multiples telles que Neil Blender et René Magritte, ainsi qu'Egon Schiele, Godspeed You, Black Emperor et Jean-Rob Drouillard. Le vernissage a lieu dimanche le 14 avril au Bal du Lézard et l'expo est en montre du 14 avril au 8 mai. C'est ainsi que se termine cet épisode de l'Aérospatiale, l'hebdomadaire d'actualité artistique, produite et diffusée par Mathilde Harvey-Morin et moi, Christelle Tremblay, sur les ondes de CKRL 89.1. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre WordPress. Et puis, un grand merci à nos invités, Laurence Gravel, Ézéchiel Nadeau, et aussi à Marie-Josée Gustave, même si on n'a pas pu lui parler en ondes. On se reprendra la semaine prochaine. Merci, au revoir tout le monde.